Mon cher ami et homonyme Bernard Benamou, délégué interministériel à l'usage de l'Internet, qui va donc vous parler de tout ce qui interfère entre le numérique, la production technologique, industrielle et l'impact et l'impaction de ces évolutions sur les systèmes éducatifs en France et dans le monde.
Et en 30 secondes, montre en main, promis. Bonjour et merci infiniment Albert-Claude, merci à vous tous qui je l'imagine devaient être fatigués après une longue et dense journée d'échange sur ces questions. Alors tout d'abord un point liminaire, c'est Albert-Claude m'a présenté comme étant donc délégué aux usages d'Internet auprès du gouvernement, à savoir précisément du ministère de la Recherche et de l'Enseignement supérieur et du ministère de l'Industrie. Mais pas, et donc je ne me prononcerai pas sur les questions relatives à l'enseignement scolaire, même si ça a été d'anciennes responsabilités que j'ai pu exercer dans le passé, parce que je ne dépends pas du ministère de l'Éducation nationale. Donc ça, c'est un premier point, et donc je tenais à dire que les propos que je vais tenter d'évoquer aujourd'hui ne sont pas issus de l'institution ministère de l'Éducation nationale en tant que telle, mais bien d'un témoin, d'une contribution d'un témoin par rapport à ces questions. Alors Albert-Claude faisait état d'un panorama très très large, parce que évidemment, si on doit parler à la fois des technologies, des cycles de production, de leurs évolutions, là encore, on pourrait dresser un panorama très large. Je vais tout de suite préciser la chose. L'institution dans son entier a été traumatisée. Et il faut savoir reconnaître les choses, y compris avec le recul que l'on a maintenant sur la question, c'est-à-dire pratiquement 20 ans, a été traumatisé par une expérience, je dirais, menée au forceps d'introduction des technologies sans comprendre si les technologies en question étaient adaptées à leurs usages, à leurs objets et surtout aux personnes auxquelles elles s'adressaient. Et quand je dis aux personnes, il s'agit évidemment des enseignants autant que des enseignés. Et là-dessus, pour ne pas le citer, le plan désormais célèbre informatique à l'école était effectivement un contre-exemple typique de ce qu'il ne faut jamais faire, ou un exemple typique de ce qu'il ne faut jamais faire en matière de technologie, c'est-à-dire pas assez penser, décider dans la hâte, avec des technologies immatures et avec des personnes qui n'étaient pas formées à ces technologies. On avait la recette du désastre condensée à grande échelle, avec un impact, pour reprendre le terme d'Albert-Claude, un impact sur l'écosystème éducatif qui a été purement désastreux. Et pour tout vous dire, j'ai eu l'occasion de mener une étude et un rapport auprès des ministères de l'Éducation et des ministères de la Famille, donc en 2003, ça date maintenant d'il y a 7 ans, mais même en 2003, lorsque j'en parlais aux acteurs de terrain, je voyais encore les réactions, les contre-coups, vous voyez, les secousses, les répliques, comme diraient les sismologues, les répliques de cette expérience désastreuse plus de 15 ans plus tard. Et donc, il faut être clair, je dirais que la réflexion que nous devons avoir par rapport aux technologies doit être menée par rapport à l'éducation avec une circonspection, avec un recul critique tout particulier, parce que les enjeux sont durables, dans le bon comme dans le mauvais sens. Or, il se trouve qu'on a trop vendu ou survendu, pour reprendre les termes des gens de l'industrie ou du marketing, on a beaucoup trop vendu ces technologies comme étant révolutionnaires, comme devant se substituer à tout l'existant, que par définition, on a créé une attente que personne n'a été en mesure de combler, et par définition, ça a créé un réflexe de retrait de la part des gens qui n'étaient pas spontanément attirés vers ces technologies, et qui est un point, je dirais, qui est une réalité politique par rapport à l'éducation. Et donc, les symboles, la perception des choses sont des réalités politiques sur lesquelles il faut être très attentif, sinon on est en dehors du jeu. La symbolique, il n'y a pas que les réalités technologiques tangibles, mais il y a aussi évidemment la perception symbolique de ces objets par les différentes catégories de personnes censées s'en saisir. C'est quelque chose d'essentiel. Alors, ceci étant dit, nous avons, par rapport à l'époque en question, connu différentes phases dans l'évolution des technologies et en particulier dans les technologies liées à l'éducation. Nous venons de sortir ces toutes dernières années de la phase exclusive liée aux technologies et aux ressources accessibles via des ordinateurs. Il faut bien comprendre une chose, c'est que l'Internet s'est déployé sur les ordinateurs. J'allais dire, ça paraît un peu bête de dire ça ainsi, mais tout simplement parce qu'on n'avait pas autre chose. Il s'est trouvé que, au départ, c'est la sphère technique, la sphère informatique, dont nous sommes pour beaucoup issus, qui s'est emparée de ce sujet, qui l'a diffusé, d'abord dans la recherche, évidemment, après, progressivement, dans le scolaire, avec ses réflexes, sa formation initiale, ses habitudes, son langage, ses codes. Et c'est une époque qui a, en gros, duré, pour ce qui est de la micro-informatique, depuis le début des années 80, ou en tout cas le milieu des années 80, jusqu'au tout début des années 2000. Et pendant cette période, le moyen quasi exclusif d'accès à l'information était l'ordinateur. On peut dire qu'aujourd'hui encore, le moyen d'accéder à l'information technique est l'ordinateur, pour une très large majorité encore. Mais la chose a commencé d'évoluer. C'est-à-dire que on a vu que la proportion de gens qui utilisaient les ressources de l'Internet ou les ressources globalement en réseau par d'autres moyens que les ordinateurs était en expansion croissante et d'une extraordinaire rapidité. Pour vous donner un chiffre, il y a quelques semaines, vous voyez, ce n'est pas très vieux, le temps passé aux États-Unis sur des machines autres que des ordinateurs, c'est-à-dire en gros des terminaux mobiles, a dépassé le temps passé sur un ordinateur. Bientôt, le nombre, alors je vais prendre le jargon de nos métiers, le nombre de mobinautes, comme on les appelle, donc des gens utilisant des terminaux mobiles, dépassera le nombre d'internautes. Ceci n'est pas de la science-fiction, ceci est en train de se produire maintenant. Et là-dessus, les usages que l'on peut évoquer des technologies, en particulier dans la sphère scolaire, sont eux aussi amenés à basculer. Pourquoi ? Parce que tout simplement, on a pris comme acquis le fait que l'ordinateur, son univers symbolique, là encore, menu, icône, souris, était une chose accessible à tous. Et en tant que délégué, dont la mission auprès des deux ministères est justement de favoriser l'acquisition et la maîtrise de ces technologies auprès du grand public, on voit bien que c'est faux. Cet univers technologique, et les linguistes nous le disent, les sémiologues nous le disent, les cogniticiens nous le disent, cet univers reste complexe, difficile d'accès, difficile de maîtrise, pour 17, 18, 20, les chiffres ne sont pas les mêmes suivant que l'on regarde telle ou telle branche, mais en gros, on sait qu'une bonne partie de la population ne maîtrisera jamais l'univers symbolique menu icône souris, ce que l'on appelle en anglais l'interface graphique, user interface, enfin graphic user interface. Typiquement, cette constatation, on n'osait pas la faire avant. On ose la faire maintenant et pour une simple et bonne raison, c'est parce qu'on a d'autres outils. Comme certains, en matière de sécurité, disaient qu'un jour on interdirait les écrans à tube cathodique, on ne peut penser à interdire les écrans à tube cathodique qu'à partir du moment où on a des écrans plats qui sont un peu moins nocifs pour les yeux. Et bien là, pour l'ordinateur, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que, pensant que nous n'avions que cet outil, et que durablement dans le paysage n'existerait que cet outil, on ne s'est pas posé la question sur les fondamentaux. Les fondamentaux, c'est que c'est un outil complexe. De très loin, l'outil le plus complexe qu'ait jamais eu à produire l'industrie. De très loin, l'outil le plus complexe qu'ait jamais eu à utiliser des utilisateurs dans toutes les sphères, qu'elles soient éducatives, professionnelles ou autres. Il faut se rendre compte que le degré de complexité qu'impose le rapport à l'ordinateur, où chaque action peut se déclencher, donc je vous le disais, menu icône souris, par des menus et des systèmes qui changent suivant les contextes d'utilisation. Le même menu, fichier, édition, n'a pas le même sens que vous soyez dans Word ou dans Excel ou dans Photoshop ou bien d'autres choses, pour ne citer que les logiciels bureautiques les plus classiques, ou en tout cas les logiciels de production les plus classiques. Là encore, cette complexité, aucune autre machine de notre univers quotidien ne la possède. Aucune autre machine n'a cette multiplicité fonctionnelle, cette richesse fonctionnelle, il faut le dire, qu'ont les ordinateurs. Mais le revers de la médaille, c'est que par définition, l'acquisition, la maîtrise de cet univers symbolique n'est pas à la portée de tout le monde. Il est pour des raisons d'illettrisme, il est pour des raisons de déficit cognitif parfois, il est pour plein de raisons, cet univers reste complexe. Si l'on accepte cela, on accepte que ce qui est en train de se produire, à savoir le basculement vers d'autres types d'interactions, vers en particulier les interactions vers les terminaux mobiles, c'était ceux que je citais en premier, je vais aller un peu plus loin tout à l'heure, mais fondamentalement, on a essayé de revenir, chose rare dans le domaine des technologies, on a essayé de revenir aux fondamentaux dans ces domaines, c'est-à-dire se dire la complexité nuit à l'utilisateur, revenons à une modalité d'interaction plus simple, c'est-à-dire où l'action et son effet en termes d'accès à l'information est plus directe. Elle n'est pas, cette action n'est pas, je dirais, récompensée immédiatement, toujours, par un accès ou par une réponse, mais en tout cas, on se dirige vers un raccourcissement de cette boucle. Et ce faisant, on permet à des personnes qui n'auraient jamais touché un ordinateur, qui n'auraient jamais maîtrisé un ordinateur, une souris, de pouvoir rentrer dans cet univers symbolique où les icônes se substituent aux menus et où globalement on a des fonctions plus directes. Ça a été la logique des applications telles qu'elles ont existé jusque-là. Sans doute seront-elles amenées à évoluer, voire à disparaître, dit-on. Mais fondamentalement, c'est un véritable changement de fond qui s'est opéré. Je rappellerai là encore quelques chiffres. Nous approchons les 2 milliards de personnes connectées sur Internet globalement dans le monde, pour un peu plus de 5 milliards de personnes qui utilisent des terminaux, enfin des téléphones mobiles au sens large. Et l'on sait que les 2 prochains milliards d'internautes ou de personnes connectées le seront d'abord et avant tout par des terminaux mobiles. C'est-à-dire, en clair, l'image que nous nous ferons de l'univers informationnel en réseau sera d'abord formée, quand je dis nous, c'est nous société, nous collectivement, sera d'abord issue de notre fréquentation des terminaux mobiles. Ce que nous remarquons, nous, ces toutes dernières années, ces 2 dernières années, c'est que nous avons de plus en plus de gens qui découvrent cet univers uniquement par le biais de ces terminaux mobiles, à l'exception des autres. Vous avez des franges de population, par exemple aux États-Unis, les Afro-Américains, les Latino-Américains, dont la réduction de la fracture numérique se fait grâce et avec ces outils mobiles. Alors évidemment, dans un premier temps, on parle des téléphones mobiles. On n'en est pas encore à parler des tablettes pour les minorités, bien que la chose pourrait être amenée à évoluer relativement vite. Cela, c'est pour, je dirais, le paysage aujourd'hui. Là encore, avec une réflexion de fond sur les ressources, les moyens, les méthodes, les communautés que pourront générer ces nouveaux outils. Là encore, nous inscrivons en même temps, dans le même temps, dans le même mouvement, dans la montée en puissance des terminaux mobiles et dans la montée en puissance, et cela a été, je crois, abordé longuement aujourd'hui, des réseaux sociaux et d'autres formes de création de communautés, les communautés qui sont, il faut le rappeler, l'ossature, l'épine dorsale de l'Internet tel qu'il existe. Ce sont les communautés, qu'il s'agisse de communautés éducatives, de communautés de développement, de communautés d'utilisateurs, de communautés d'intérêt, de groupes, d'associations, d'ONG, peu importe, ce sont ces communautés qui créent l'ossature en termes, je dirais, interpersonnel, mais aussi en termes de contenu, par rapport effectivement à ce que nous connaissons de l'Internet aujourd'hui. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que lorsqu'on s'inscrit, et c'est, je dirais, là encore l'expérience de ces dernières années qui le montre, lorsque l'on s'inscrit dans une démarche d'éducation en ligne, là encore, le contre-exemple typique, et quand bien même il aurait coûté très cher, et cela a coûté très cher, c'était de créer du contenu sans se préoccuper de la manière dont il allait être utilisé, dont on allait se l'approprier globalement sur le réseau. Typiquement, là encore, sans vouloir stigmatiser tel ou tel, parce qu'ils ont parfois des initiatives brillantes dans ces domaines, mais là, celle-là ne l'était pas. MIT OpenCourseWare, plus de 100 millions de dollars de numérisation et de mise à disposition de cours sur les réseaux, et un impact écosystémique très faible, pour ne pas dire négatif. Pourquoi ? Parce qu'on met à disposition du contenu sans se préoccuper du tout de savoir quelles seront les communautés, les tutorats, les groupes de travail, l'ensemble, je dirais, de la méthode d'apprentissage qui pourra être créée à partir de ces contenus. On était là dans le fait technique brut. Le fait technique, c'est projeter du savoir à distance. C'est une logique très, certains diraient, très masculine des technologies, c'est-à-dire on voit la performance en tant qu'objectif, en tant que tel. Non, 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 parce que la performance brute, qui consiste à mettre des contenus en réseau sans se préoccuper du reste, cela ne fonctionne pas. Je rappellerai pour l'histoire que tous les changements qui se sont produits en termes de démocratisation des outils de l'Internet sont nés d'une simplification et d'une prise en compte justement des besoins des communautés. Le web, il faut le rappeler, avait comme objectif premier, d'une part évidemment le partage des connaissances, mais la création, la possibilité de création communautaire de contenu, c'est ce que voulait Tim Berners-Lee, Sir Tim Berners-Lee, lorsqu'il a créé le web au CERN à Genève. Mais fondamentalement, c'était quoi? C'était de dire, on va diminuer le seuil de complexité nécessaire à l'émission, et pas simplement à la réception. On va faire en sorte qu'il soit plus simple de partager, et donc de faire savoir, et pas simplement de consommer. On n'était pas dans une logique audiovisuelle classique, ou broadcast, comme disent les Anglais, on était bien dans une logique où l'ensemble de la communauté devait pouvoir produire, voilà, devait pouvoir produire pour l'ensemble. Or, il se trouve que c'est la simplicité, le fait de rendre plus accessible cette démarche de production et d'accès, qui a permis le succès du web. L'Internet, dans ses 20 premières années, était relativement, enfin, était massivement technique et utilisé par la frange technique des chercheurs. Il n'est devenu grand public, il n'a permis de se poser des questions sur la transmission, sur l'éducation, qu'à partir du moment où ont existé des outils comme le web, qui simplifiaient considérablement son accès. Eh bien, de la même manière, puisque je vous parlais de l'interface graphique, qui elle aussi était, je dirais, la génération précédente d'innovation et de simplification, de la même manière, ces cinq dernières années, nous avons assisté à la montée en puissance d'une nouvelle forme d'interface, et donc de nouveaux contenus en regard de cela, et de nouvelles possibilités en même temps de créer des communautés. C'est là que les choses se jouent. Malheureusement, comme toujours lorsqu'il est question de technologie, les choses ne s'arrêtent pas là. Pourquoi? Parce que, en même temps que se créent ces évolutions vers des terminaux mobiles, vers de nouveaux types de contenus créés spécialement pour cela, on a aussi d'autres évolutions parallèles qui sont en train de se rejoindre, en particulier le livre électronique, qui jusqu'à présent cheminait parallèlement aux outils informatiques et qui va les rejoindre très rapidement. On prévoit pour les prochains mois, la prochaine année ou les deux prochaines années, que des tablettes, je ne parle pas simplement de la toute dernière d'Amazon, mais des tablettes reprendront les deux technologies qui étaient parallèles, qui étaient les technologies d'écran à cristaux liquides d'un côté et d'encre électronique de l'autre, pour les mélanger et faire en sorte que l'on ait le même type de lecture en tout lieu, en tout point, et pas simplement un outil interactif permettant d'afficher des animations, des vidéos, et de l'autre côté un outil de lecture permettant de lire en plein air, en plein soleil, comme le permettent les liseuses, mais bien les deux outils en un. Et ceci est en train de se produire. Et là encore, avec des changements notables. Pourquoi? Parce que l'un des vecteurs politiques, que ce soit en Turquie, qui va équiper ses scolaires de 15 millions de tablettes dans l'ensemble de ses établissements, que ce soit en Corée, que ce soit en Amérique du Sud, enfin, dans de très nombreux pays où la chose est discutée, l'un des vecteurs politiques, c'est de dire, nous allons remplacer les manuels papier. Là encore, avec une économie d'échelle qui n'est pas encore totalement prouvée, avec un questionnement sur le devenir de ces outils en tant que manuel papier, en tant que substitut au manuel papier qui n'est pas totalement prouvé, mais en tout cas, c'est l'un des arguments politiques qui est mis en avant par l'ensemble des promoteurs de ces expériences. Il faut avoir en tête que la discussion, et je sais qu'elle a eu lieu et qu'elle a lieu très souvent lorsqu'il est question d'éducation et de technologie, la discussion sur le colloque singulier qui existe entre l'enseignant et l'enseigné, entre l'élève et le maître, s'appuyer sur le fait de dire on peut globalement imaginer une transmission qui se passe des outils technologiques. Le propos que je vous tenais sur le rapprochement entre les tablettes et les liseuses fait que dans un temps pas très lointain, qui se chiffre en années, nous allons avoir impossibilité pratique de substituer le papier, d'imaginer encore que ce colloque puisse se faire via le papier, puisque le papier sera selon toute vraisemblance progressivement relégué à certaines tâches spécialisées, mais pour l'essentiel, on peut imaginer, et maintenant ce n'est plus de la science-fiction, que l'on puisse aller vers le remplacement par des outils de type liseuse ou leurs équivalents dans les temps à venir. Et là, la question qui se pose de savoir est-ce qu'un professeur pourra faire l'économie d'une réflexion sur sa pédagogie, sur le rapport qu'il entretient avec ses élèves au travers de l'outil technique, non. Il ne sera plus possible de revenir en arrière. Et là encore, avec des questions qu'il nous faut aborder dans la durée, et je répète, là encore, sans vision, je dirais, irénique de ce futur, parce que nous ne savons pas de quoi il est fait. Et donc, là encore, penser que parce que ces outils existent, ils seront utilisés pour le mieux, que parce que ces outils existent, c'est beaucoup trop tôt pour être en mesure de le dire. En tout cas, ça, je dirais que c'est notre futur immédiat. Mais ce pourquoi Albert Claude, que je connais, et qui, avec lequel nous discutons souvent de ces questions, parce que ça fait partie de notre réflexion par rapport au champ éducatif et au-delà, je dirais par rapport à l'univers des technologies, parce qu'on ne peut pas, c'est ce que je tente de vous dire, on ne peut pas réfléchir aux technologies dans l'éducation en dehors du contexte technologique dans lequel elles s'inscrivent. Or, il se trouve qu'on a trop souvent essayé justement de sortir le poisson du bocal. Non, ces technologies s'inscrivent dans une évolution générale des technologies dans la société, et en particulier vers le fait que, après un Internet fixe, d'abord, après avoir connu des machines séparées, qui étaient, certains d'entre vous ont souvenir des ressources sur CD-ROM, etc., enfin, bon, ça nous rappelle des choses, après avoir connu les premiers temps du réseau, la montée en puissance des réseaux et des réseaux sociaux, la montée désormais en puissance des terminaux mobiles, nous allons vers d'autres machines. C'est-à-dire que l'Internet ne s'arrêtera pas à des terminaux informatiques. Je m'explique. Jusqu'à présent, la quasi-totalité de ce par quoi nous passons pour nous connecter à Internet, ce sont des ordinateurs. Qu'ils aient la forme d'un téléphone ou qu'ils aient la forme d'une tablette, ça ne change pas le fond du problème. Ça reste des ordinateurs. C'est-à-dire des machines avec une puissance de calcul suffisante et avec un capacité de stockage, avec une capacité d'interaction telle que nous les connaissons. Cela va changer. C'est-à-dire que beaucoup d'autres objets du quotidien vont progressivement être connectés à cet univers. Le premier d'entre eux, auquel on ne pense pas, et qui sera pour nous directement connecté à la sphère des terminaux mobiles, s'appelle la télévision. Pourquoi ? Parce que tous les acteurs industriels ne rêvent que d'une chose, c'est de mettre la main sur l'extraordinaire ressource publicitaire que recèle la télévision. Vous me direz, en quoi sommes-nous concernés, nous, dans ces domaines ? Eh bien, pour beaucoup de choses. Pourquoi ? Parce que tout simplement, les mêmes systèmes techniques, les mêmes outils, les mêmes systèmes d'exploitation, pour parler le langage des techniciens, sont utilisés désormais sur les smartphones, donc les téléphones mobiles, quelle que soit leur génération, les tablettes, et bientôt les télévisions connectées. La télévision connectée, là encore, ça a été une sorte d'obsession technologique du début du web, où Sony, pour ne parler que de cette marque, mais beaucoup d'autres, ont tenté de créer une télévision où on vous verrait le web dans la télévision. Cela ne marche pas. Cela n'a jamais marché. Et à mon idée, ça ne risque pas de marcher tout de suite. Parce que tout simplement, la posture d'utilisation de la télévision n'est pas du tout la même que la posture d'utilisation des écrans qui sont devant vous, qu'ils soient écrans d'ordinateur portable ou de tablette ou de téléphone, où on est là justement en colloque singulier avec une machine. La machine télévision est une machine que l'on partage, est une machine que l'on regarde de loin, est une machine sur laquelle, pour l'essentiel aujourd'hui, on ne consomme que de l'audiovisuel. Point. Imaginez, et je vous invite à faire l'essai, ceux d'entre vous qui ont déjà tenté de naviguer via un navigateur web sur une télévision, ont trouvé l'expérience pour le moins frustrante. Or, ce n'est pas là que les choses s'arrêtent. Pourquoi ? Parce que bientôt, ces télévisions vont parler avec les terminaux qui sont devant vous. D'abord avec les téléphones, avec les tablettes, plus ou moins avec les ordinateurs, mais disons surtout qu'on aura deux niveaux d'écran et de connexion dans les temps à venir. Le premier, partagé. Je n'ose pas dire social parce que ça veut dire autre chose maintenant, mais en tout cas partagé dans un cercle plus ou moins restreint de quelques personnes, et le deuxième, beaucoup plus personnel, qui sera effectivement l'outil d'interaction directe. Et c'est cet outil-là qui va parler à la télévision. La télévision sera d'abord connectée à cet outil, pour ainsi dire, avant que de l'être à l'Internet. Et à ce moment-là, on voit naître, là encore, dans les cartons des industriels, toute une série de recherches sur la connexion entre les réseaux sociaux et les contenus audiovisuels, l'information surajoutée sur des contenus audiovisuels classiques de type cinéma, télévision ou autre. Amazon, par exemple, travaille sur un projet qui s'appelle le deuxième écran, second screen, qui permettra d'avoir de l'information en temps réel sur les films que l'on regarde. Un peu comme certains d'entre vous ont entendu parler de l'application Shazam pour la musique, on aura un Shazam pour les films. c'est-à-dire une application qui sera capable de vous dire ce que vous regardez, les personnages que vous voyez, les acteurs, le metteur en scène, l'histoire, etc. Et ça, c'est vrai pour le cinéma, ça le deviendra aussi pour la télévision, ça le deviendra sur toute forme d'information surajoutée, mais sur lequel on interagira de près sans modifier ce qui se produit sur l'écran et qui sera visible de plusieurs. Ça, c'est l'une des hypothèses, non pas l'une des hypothèses, l'un des champs de travail actuels des industriels dans ce secteur. Ceci reste malgré tout un terminal audiovisuel plus ou moins informatisé. Les vrais changements, et alors là qui auront des répercussions sociologiques, éducatives, personnelles, voire politiques, difficiles à maîtriser encore, sont ceux qui seront nés du moment où la connexion Internet, qui pour l'instant demande un acte volontaire de la part de l'usager, vous êtes sur Internet, vous savez que vous y êtes, et vous savez quand vous vous déconnectez. Alors la chose devient un peu plus floue lorsque vous avez un téléphone mobile, où vous avez effectivement des outils de géolocalisation, mais globalement on sait encore à peu près quand on va sur Internet. À l'avenir, cette frontière va devenir extraordinairement poreuse entre le connecté et le non connecté. La notion d'internaute va disparaître parce que nous interagirons tous, plus ou moins dans notre vie, avec des structures issues du réseau. Et donc là, naît une autre forme de l'Internet, ce qu'on appelle dans notre jargon, là encore, l'Internet des objets, qui va être bien au-delà des objets électroniques, qui va être bien au-delà des objets domestiques, pour être dans notre environnement tout court. Pour le bien ou pour le mal. Ceux d'entre vous qui ont vu le film Minority Report se souviennent de ces perspectives qui sont littéralement effrayantes de la connexion dont on ne peut pas sortir. Où vous êtes tracé, pisté en permanence avec une vision orwellienne de l'acte d'achat, de l'acte de publicité. Il faut avoir en tête que si nous ne sommes pas informés de ces évolutions, en tant que citoyens et évidemment en tant qu'enseignants, nous prenons un risque de les laisser se dérouler sans pouvoir agir sur elles. Et je dirais que l'un des rôles prioritaires de l'école et des enseignants dans les temps à venir sera justement de former à faire en sorte que ce futur non déterministe des technologies, parce qu'il n'y a pas de déterminisme des technologies, pas plus dans l'école qu'en dehors de l'école, il faut que ce futur soit façonné par le citoyen, par l'élève, par le maître, par le citoyen, et pas qu'il s'impose. Toute la réflexion, vous savez, il y a une phrase qui était tout simplement peut-être la plus inquiétante que j'ai entendue dans le domaine des technologies ces dernières années, c'était le patron de Google, Eric Schmidt, qui disait « Notre rôle, notre mission en tant que Google, c'est de rester, d'aller au plus près de la ligne qui fait peur et de ne pas la franchir. » Mais quand c'est Google, avec tout ce que l'on sait de la puissance informationnelle et de recueil d'informations sur les personnes que constitue Google, quand c'est Google qui le dit, on a toute raison d'être vraiment inquiet. Tout simplement parce que il y a une tension qui se crée entre le citoyen et les acteurs économiques. Et cette tension, c'est que d'un côté, on doit, quand on est un acteur économique, recueillir le maximum d'informations sur la personne, parce que c'est ce qui est le plus hautement valorisable sur les réseaux aujourd'hui. Et de l'autre côté, en tant que citoyen, on essaye de préserver un tant soit peu des principes, des valeurs, la vie privée, les libertés, etc. Et donc, dans le même temps, les mêmes outils que l'on peut très justement reconnaître comme ayant eu un rôle politique majeur dans les printemps arabes, sont aussi de ce côté-ci de la Méditerranée, des outils qui, ou de ce côté-ci de l'Atlantique ou de l'autre, peuvent être des outils qui peuvent être des outils d'aliénation. Et donc, là encore, le rôle du pédagogue, c'est aussi de se poser des questions par rapport à cela, d'où la nécessité d'un recul critique par rapport aux outils que nous utilisons. Vous pourriez vous dire, c'est étrange qu'une personne dont la mission même est de favoriser le développement de ces technologies auprès du grand public, d'accompagner l'écosystème industriel de ces technologies, puisse tenir ce langage. Eh bien non, parce que je considère, et nous considérons, nous sommes quelques-uns, heureusement, voilà, que c'est notre responsabilité, plus encore, que la confiance dans tous les aspects qu'elle peut avoir, confiance entre les citoyens, confiance dans le système éducatif, confiance dans les institutions de manière générale, relèvera justement de cette maîtrise et non pas du fait de subir ces technologies, d'en être victime, mais bien d'en être acteur, de les façonner. Et si cette confiance devait être largement remise en cause, c'est tout l'édifice technologique qui pourrait s'effondrer. Et tous les acteurs dont je vous parlais, qu'il s'agisse des Facebook, des Google ou d'autres, ont cette obsession en permanence, c'est-à-dire de se dire, nous devons approcher justement cette ligne jaune, mais si nous devions la franchir trop brutalement, le retour de bâton pourrait être terrible, avec des conséquences économiques, surtout en cette période de crise, qui sont incalculables. Sachant, il ne vous aura pas échappé, que globalement, les acteurs les plus florissants des technologies sont parmi les seuls dans les économies des pays développés à connaître des croissances à deux chiffres. Quasiment les seuls. Et donc là-dessus, vous voyez bien la particularité du rôle que nous, acteurs impliqués de ces technologies, qui avons à les utiliser, à les maîtriser, à les transmettre, et à en transmettre la maîtrise, le rôle que nous avons dans nos sociétés, c'est bien d'éveiller et de maîtriser, d'éveiller la curiosité, de maîtriser ces technologies et de faire en sorte que leurs évolutions soient écrites. C'est le propos d'un vieil ami, professeur et juriste, Lawrence Lessig, que ces technologies restent sous le contrôle du citoyen. Il a une phrase très belle et très courte qui dit « Le code informatique, le code de ces technologies, crée du droit, crée de l'organisation sociale. Le vivre ensemble que nous connaissons aujourd'hui et qui est créé pour partie par l'urbanisme, pour partie par l'ensemble des structures visibles de nos sociétés, à ce vivre ensemble-là, se superpose désormais une infrastructure non visible, immatérielle, partagée par des milliards de personnes, et qui crée de l'organisation sociale. Une structure comme Facebook n'est ni plus ni moins qu'un code qui limite les choses. Twitter en est l'exemple extrême, c'est-à-dire vous limitez à 140 caractères l'échange possible. C'est une contrainte, mais cette contrainte a été suivie et adoptée par des centaines de millions de personnes aujourd'hui. Bien là, c'est la même chose. Globalement, ces technologies créent de l'organisation sociale et cette architecture des codes technologiques doit être sous le contrôle des citoyens. Et qui doit être en mesure de transmettre et de faire connaître et de maîtriser cette nouvelle architecture de nos sociétés, ce sont les pédagogues, les éducateurs, dans nos différentes missions. Et donc je crois que plus que de voir ces technologies et de les voir s'imposer à nous, il nous faut nous poser la question de savoir comment, non pas les divertir au sens étymologique du terme, les faire changer de route pour faire en sorte qu'elles deviennent ce que nous souhaitons qu'elles deviennent, c'est-à-dire un outil au service de la formation, de l'enseignement bien sûr, mais de la vie sociale tout court. Et c'est ce pourquoi les contribuables, pour ceux d'entre vous qui relèvent de la fonction publique, il y en a je crois, les contribuables, les citoyens nous paient. Et c'est véritablement ça l'enjeu dans les temps à venir, c'est de faire en sorte que les formes que prendront ces sociétés, nos sociétés, soient sous le contrôle des personnes à qui nous transmettons cette information, à qui nous transmettons ces savoirs, parce que tout simplement, il en va de la nature même des sociétés dans lesquelles nous nous inscrirons. Et là-dessus, il n'y a absolument aucune certitude du chemin que pourront prendre ces sociétés par rapport à ces technologies. Ceux qui vous diront les technologies vont dans tel sens sont des menteurs. Parce que soit ils sont au pire défaitistes, soit ils sont intéressés et ils veulent que vous alliez dans tel ou tel sens. L'idée, et il ne me reste que quelques secondes pour conclure maintenant, l'idée, après vous avoir assommé, en tout cas je l'espère pas trop, avec ces propos, c'est de dire, là encore, la maîtrise et la simplicité des technologies que nous mettrons en œuvre seront désormais des conditions démocratiques des enseignements et de l'école au sens le plus large, telle qu'elle se produira dans les temps à venir. Une chose, je vous parlais, et j'en terminerai là, issue justement de l'origine technique de l'Internet, c'était que souvent, les techniciens avaient tendance à se parler entre eux, et à ne reconnaître un système que s'il était élégant techniquement, pas s'il était simple, pas s'il était facile d'accès pour monsieur et madame tout le monde, non, et surtout pas pour leurs enfants, non, s'il était performant. Aujourd'hui, le fait que ces ressources techniques soit simplifié, devient un élément constitutif d'un processus démocratique. Quelque chose de complexe n'est pas simplement inélégant, n'est parfois même pas tout simplement ardu ou difficile, non, c'est antidémocratique. Et donc, le fait de concevoir des ressources et de faire en sorte qu'elles soient simples d'accès, l'ergonomie, la simplicité, l'expérience utilisateur, comme disent maintenant les gens de ces métiers, devient partie intégrante d'un processus et d'une démarche démocratique par rapport à ces technologies. Et je dirais que là encore, ce sont ceux-là même qui doivent les transmettre aussi bien dans le supérieur que dans le scolaire, qui seront aux premières loges pour être prescripteurs, acteurs, pour être architectes de ces codes et pas uniquement consommateurs. Nous ne sommes pas dans la première époque des médias traditionnels et plus encore de la télévision. Merci à vous tous. Thank you.